Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
En direct du Festival international du film de Berlin, la Berlinale, plan large sur les films de la République de Weimar redécouverts et sur la très riche histoire de la UFA avec Rainer Rotter et Michel Simon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Personnellement, je ne sais pas ce qu'il y a de hautement culturel à reprojeter des vieux films. Qu'est, si ce n'est du fétichisme, la projection réitérée jour après jour de vieux films qui n'ont en commun que le fait d'être célèbres. Celle qui s'exprime ainsi, citée par Libération, c'est Gemma Guerini, vice-présidente de la commission culture de la ville de Rome, en lutte contre un petit et vaillant festival cinéphile de sa ville, Piccolo America. Et il faut croire que Berlin est viscéralement une ville de fétichistes, car un des grands succès de cette 68e Berlinale qui s'achève demain, c'est la rétrospective Weimarer Kino Neu Gesehen, le cinéma de la République de Weimar revisité avec des films qui ne sont même pas célèbres, précisément une succession pourtant de découvertes extraordinaires. Les salles n'ont pas désempli, on a même souvent refusé du monde pour cette plongée en 28 programmes dans 15 ans d'histoire du cinéma, plongée qui rebat irrémédiablement les cartes de ce qu'on croyait en connaître. Entre 1918 et 1933, le cinéma allemand était un des plus inventifs du monde et le plus productif en Europe. Une compagnie s'y taillait la part du lion, la UFA, qui vient de fêter ses 100 ans, résultat de la Première Guerre mondiale et de ses conséquences désastreuses pour l'Allemagne, entité plus qu'ambiguë, enfantée par la rencontre d'une volonté politique, pour ne pas dire militaire, du grand capital et d'artistes de génie. Réponse germanique à Hollywood, la UFA fut cette usine à rêve qui produisit Lubitsch, Lang, Murnau, Pabst et tant d'autres et créa le mythe Marlène Dietrich avant de devenir l'instrument chéri de la propagande nazie. Pour nous raconter l'histoire secrète des films de la République de Weimar et celle flamboyante et controversée de la UFA, Plan Large reçoit aujourd'hui Rainer Rotter, directeur artistique de la Cinémathèque allemande et programmateur des rétrospectives de la Berlinale. La Berlinale, c'est par ailleurs évidemment une compétition et d'excellentes sections parallèles, quelques 400 films projetés dont Michel Simon, spectateur assidu, nous dira en fin de mission ce qu'il faut en retenir cette année en attendant le palmarès qui sera annoncé ce soir. Bonjour Rainer Rotter. Et merci d'être avec nous aujourd'hui en direct de la Potsdamer Platz dans les studios de l'ARD, dans l'hôtel Marriott. On fêtera les 100 ans de la République de Weimar, ça sera en novembre prochain, le 9 novembre exactement. Au-delà de cet anniversaire, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous replonger dans cette filmographie abondante, mais on s'en est rendu compte ces 10 derniers jours, largement méconnue en fait?
On a décidé d'opter pour des films qui sont un peu hors du canon. Bien sûr, sur le cinéma de Weimar, Metropolis, Faust et des films de Pabst, mais on peut découvrir beaucoup de choses dans ces 15 ans de cinéma. C'est une période très fructueuse pour le cinéma allemand. On a eu beaucoup de plaisir. On a vu 200 films et parmi ces 200 films, on a mis 30 dans un programme. Même pour les cinéastes assidus, il y a beaucoup de découvertes à faire. On était très surpris qu'on ait fait de très très belles trouvailles.
Oui, et nous aussi, on était très surpris et ravis par ce qu'on a vu. Est-ce que vous sentez qu'il y a tout de même une résonance avec l'époque qui expliquerait le succès de votre rétrospective? J'ai parlé avec quelques Allemands ici à Berlin, des cinéastes notamment, qui m'ont tous dit que dans le climat actuel, avec l'entrée de l'extrême droite au Bundestag, la difficulté à former une coalition gouvernementale, ils avaient le sentiment d'être en pleine République de Weimar. Est-ce que vous sentez un esprit du temps, il y a 100 ans, qu'on pourrait retrouver aujourd'hui, Rainer Rotter?
Bon, j'espère très qu'on n'est pas dans la même situation que la République de Weimar à l'époque, au moins à la fin. Mais la situation politique de la République de Weimar, toutes ces disputes qu'il y a eu pendant toute son histoire, sont peut-être pour l'Allemagne d'aujourd'hui, avec, il faut y penser. Il y a eu un très très grand consensus comment la société allemande évolue, quelles sont leurs bases, et ça a un peu changé parce qu'il y a un parti d'extrême droite, la AfD, qui a beaucoup de succès, et beaucoup de choses qu'on a pensé des valeurs sûres sont un peu en question. Donc pour la première fois depuis très longtemps, il y a une dispute politique qui est une lutte qui nous rappelle un peu les luttes de la République de Weimar.
Quels ont été les critères pour retenir, vous avez dit, vous avez vu 200 films, beaucoup auraient pu être retenus. Quel a été le choix? Il fallait que ce soit des films qui nous parlent encore maintenant, ou ce sont des films qui nous permettent de découvrir des grands artistes, des grands cinéastes, finalement oubliés aujourd'hui?
Bon, d'abord, on a eu comme critère de ne pas prendre les 50 films les plus connus. Ça, c'était assez facile. Et puis, vous l'avez mentionné, c'est une rétrospective qui montre beaucoup de films vieux, soi-disant. Donc, le deuxième critère, c'était que c'était des bons films aussi. Et dans ce processus de regarder les films et de faire une sélection, c'était très important pour nous de faire des groupes comme ça, qu'on voit un peu les liens communs. Et donc, certaines choses, on n'a même pas envisagé parce qu'on voulait voir le contexte. Il y a eu trois sujets, l'exotisme, l'histoire et le quotidien, parce qu'on pense que même aujourd'hui, même si on voit ces films aujourd'hui, sont des sujets qui intéressent le public.
Est-ce que ces sujets étaient déjà à l'époque des grands sujets? C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des films de genre, comme on pourrait parler de films policiers, de films d'action, de western, et qui correspondaient chacun, donc les films historiques, les films exotiques et les films qui parlaient du quotidien, à un goût particulier du public d'il y a 100 ans?
Je pense que le cinéma de la République de Weimar était quand même, il y a eu des genres. Et on voit dans notre sélection des films de genre, bien sûr. Et très souvent, on ne le voit pas quand on pense au cinéma et quand on pense au canon, parce que c'est la oufa qui domine ce canon. Et donc, ces grandes productions à l'époque. Et il y a eu ces talents énormes et c'est pour ça qu'ils sont devenus très importants. Et nous avons essayé de regarder un peu ce qui est derrière ça. Et qu'est-ce qu'ils ont mis au cinéma à l'époque? C'était quoi le quotidien du spectateur allemand dans le temps? Et qu'est-ce qu'on peut découvrir? Et on voit alors qu'il y a eu plusieurs sujets qui se sont mis en avance. Et c'est très intéressant de voir que, par exemple, la relation entre hommes et femmes, ils ont défini un peu la République de Weimar. C'est très important aussi de voir les perspectives sur l'histoire qui sont pas du tout font pas partie du discours politique. Par exemple, un film de Gerhard Lamprecht qui s'appelle en allemand Der Katzensteg est pas du tout héroïque et n'essaye même pas de glorifier la Prusse, ce qui était à l'époque quand même usage.
Oui, c'est vrai que quand on voit ces films, on a gardé, j'imagine que c'est vrai en Allemagne, mais ça l'est encore plus en France, puisqu'on connaît moins bien ce cinéma, le cinéma de la République de Weimar. Pour nous, le cinéma de la République de Weimar, c'est ce qu'en a raconté Siegfried Krakauer dans son livre de Caligari à Hitler, une histoire psychologique du film allemand, c'est-à-dire comment ce cinéma-là mène au nazisme, ou alors après lui, les travaux de Lotte Eisner avec l'écran démoniaque, et finalement, on retient des grandes tendances, on retient le caligarisme, l'expressionnisme, on retient les noms de Lubitsch, de Lang, de Murnau, de Pabst et de quelques autres, Dieterle et autres. Il y a cette idée de faire une véritable relecture, de sortir un peu du canon de l'histoire officielle du cinéma allemand de l'époque et d'ouvrir peut-être d'autres pistes.
C'est exactement ce qu'on a voulu essayer. On voulait voir le cinéma de Weimar sans vraiment le définir dans ses catégories. Donc, on a vraiment essayé de ne pas voir deux Caligari à Hitler comme si chaque film était pratiquement déterminé dans la réflexion en ce qui concerne la chute de la République. Et ce n'est pas du tout le cas. Parce que les films, selon des années, ne on peut pas les voir que par 33. Et donc c'est un peu polémique de Krakauer qu'on n'a pas voulu adopter. Et même ce qui concerne Notaris, on n'a pas voulu suivre sa démarche non plus, parce qu'elle a vu ça un peu de l'après-guerre. Et ce n'est pas tout à fait vrai de relire le cinéma d'après la guerre. Et il y a eu, bien sûr, des symboliques dans le cinéma de Weimar, mais on a plutôt essayé de voir un film de 1925 ou de 1927, de l'année où il a été produit. Et donc, vous voyez une autre qualité, et ce sont quand même des films qui datent de leur époque.
Hörten Sie, wie es schrie? Es weiß noch nicht, was sein erwartet, wenn es zum großen Lebenslauf startet. Doch sein Signal, dass es geboren sei, das ist der Schrei. Mein Kind, das Erste, was du lernen musst, sei dir bewusst. Du bist auf dieser Erde nicht allein, so wichtig du dir scheinst, so kläglich du auch greinst. Es sind noch andere da, die noch viel lauter schreien. Schrei!
Voilà, une des magnifiques découvertes de cette rétrospective, Le Chant de la Vie d'Alice von, Das Lied vom Leben d'Alexis Granowski, de passage en Allemagne. C'est un réalisateur qui a commencé en URSS et qui a fini sa carrière en France. Les Aventures du Roi Puzzle ou Taras Bulba, ça doit vous évoquer quelque chose. Michel Simon, alors un film extraordinaire. Je ne sais pas dans quelle catégorie on peut le ranger, si c'est dans film du quotidien peut-être. Un film qui, pour mémoire, avait fait un scandale dans le monde entier. Il a été interdit dans beaucoup de pays. Pourquoi ?
Pas à cause des raisons politiques, c'était pas ça le problème. Mais la raison pour la censure, c'était une scène qui se jouait, on a montré une naissance, une césarienne. C'était pas vraiment montré, c'était juste un peu faire allusion. Et ça, c'était vraiment un tabou qu'on avait brisé, c'était trop intime. Et donc la naissance, à l'époque, pour les spectateurs, c'était nouveau. Et donc pour les censeurs, c'était trop provocant.
Mais ce sont des films qui parlent parfois très directement de leur époque, et puis parfois de manière beaucoup plus détournée. Je pense à un film qu'on a pu voir hier à la Berlinale, Brüder de Werner Orbaum, un film de 1929, qui va raconter la grève des dockers de Hambourg en 1896. Donc on est on est 30 ans avant, et pourtant on sent bien, parce qu'il fait jouer des gens qui ne sont pas professionnels, des gens dont c'est le métier, qu'on est quasiment dans un documentaire sur leur vie. Mais alors on décale ça dans le temps pour éviter quoi ? Les foudres de la censure, pour pouvoir parler de la réalité et des grandes crises politiques de l'époque de manière détournée, Rainer Rother ?
Bien sûr, il y a eu ces mouvements, mais Hurbaum, avec la SPD, avec les social-démocrates, il a travaillé ensemble avec eux. Donc c'est un film où on a compris le message politique. Donc, je ne pense pas que cette grève de 80... Il n'a pas fait ça pour éviter la censure, mais Mais c'était vraiment une lutte parmi les travailleurs allemands. C'était très important. Donc il a actualisé d'une certaine façon. Il n'a pas fait une actualisation, mais il essaie. Parce que c'était des non-professionnels qui jouent. Et ils sont très convaincants. Mais il veut avoir une forme d'authenticité. Et déjà ça, pour les spectateurs, c'était très important. Et bien sûr, il y a ce conflit entre les deux frères. Il y a un des frères qui est policier, il y a l'autre qui fait partie des grévistes. Donc ça, c'est un commentaire sur la situation dans laquelle sont toujours ceux qui font grève, mais particulièrement dans la République de Weimar, ceux qui sont de l'autre côté, ce ne sont pas des ennemis, mais ce sont les frères qu'il faut convaincre à l'époque de ce combat. Et donc c'est un appel à l'intérieur du film en ce qui concerne les policiers de respecter les droits du travailleur.
Alors, autre exemple de comment parler de son époque, on sait que la République de Weimar est née sur les décombres de l'Empire prussien après la défaite allemande pendant la guerre de 14-18 et cette question va revenir de manière plus ou moins transfigurée, alors parfois de manière directe et décalée d'une manière très étrange, ce film dit Andere Zeit, où on va vous montrer la guerre de 14 et ses tranchées, mais du point de vue anglais, des Allemands qui racontent la vie des Anglais dans les tranchées avec Konrad Veidt, extraordinaire en officier, très très déprimé par la guerre. Ça fait 3 ans qu'il est dans sa tranchée et on comprend qu'il aille pas très bien. Mais même un film d'évasion, qui se passe en Asie en principe, qui est Opium, redécouverte formidable, Robert Reichert, 1919, avec ses médecins toxicomanes, ses visions de bacchanal extraordinaires quand on prend de l'opium, on montre une génération fatiguée, une génération dépressive et très marquée par la Première Guerre mondiale. Cette question revient en permanence en fait dans les films.
Oui, Anton Kees a essayé avec quelques études Shell-Shock Cinéma de montrer ça. La République de Weimar est en effet une république qui est très fragile. Et il ne faut pas oublier qu'on a perdu la guerre. Il y a une hyperinflation en Allemagne depuis dans les années 1922-23. Donc, tout ce qui semblait sûr a été détruit. La bourgeoisie est appauvrie. Et dans cette société allemande, il y a une lutte en ce qui concerne la mémoire. Et donc, il faut construire sa propre tradition qui n'est pas donnée. Donc ça, pour la République de Weimar, est très important. C'est une République qui s'essaie de se construire une tradition parce que la tradition dans laquelle elle semblait être a été détruite. Donc ça veut dire que des films qui racontent quelque chose sur l'histoire, mais aussi des sujets, il faut les voir dans ce contexte politique. Est-ce que ce sont des films qui essayent de donner un sens à la guerre, ou est-ce que ce sont des films qui ne veulent pas y voir un sens? Et le film de l'autre côté, The Andere Seite, il a fait beaucoup de films sur la Première Guerre mondiale, La Somme, Tannenberg et d'autres. Mais ça, ce sont des films qui sont un peu patriotiques, dans la veine patriotique. Et donc, d'habitude, il essaie d'être du côté d'une mémoire de la Première Guerre mondiale comme un combat héroïque qui mène à la République de Weimar. Et maintenant, il fait autre chose, et ça nous intéresse. Il prend un auteur britannique qui a été plusieurs fois adapté au cinéma. Et donc, il voit quelque chose de traumatique à la guerre, une expérience traumatique, et que ça ne donne pas de sens. Et ça, c'est le soldat britannique qui voit ça. Donc, même un auteur patriotique allemand peut parler du désastre de cette Première Guerre mondiale.
D'ailleurs, pour la petite histoire, Goebbels aimera beaucoup le film en 1931. Il trouvera que ça décrit très bien l'expérience du soldat, mais il le fera interdire en 1933 quand il sera au pouvoir, parce que c'est trop déprimant pour ceux à qui on pourrait faire la guerre quelques années plus tard. Et puis, on va parler de la UFA et de comment elle a concurrencé plus ou moins efficacement le cinéma hollywoodien, mais on trouve aussi dans ces rétrospectives des films qui sont tout à fait à la hauteur et qui ressemblent à des films qu'on pourrait voir à Hollywood à l'époque. Je pense à The Abenteuer einer schönen Frau, sorti en France sous le nom de Une femme moderne, 1932 de Hermann Kösterlitz, comédie avec Lil Dagover qu'on n'avait jamais vu aussi extraordinaire comme une femme moderne à l'américaine ou à la Danielle Darrieux de l'époque. C'est réalisé par Hermann Kösterlitz qui deviendra Henry Koster quand il ira à Hollywood. Et puis, alors, ce film que j'aime énormément, Song, Show Life en anglais de Richard Eichberg avec Anna May Wong et Heinrich George, comédie, tragédie plutôt exotique, la terrible histoire de la sainte danseuse exotique et du lanceur de couteau aveugle. Là, on est à la fois dans l'exotisme, dans le grand mélodrame, mais surtout dans le cinéma de très très haut niveau. Là, c'est une immense découverte que vous avez faite, Rainer Roth.
Oui, merci.
Was geschah? Was geschah? Das Geschirr. Na, Sie kommen ja morgen früh raus. Was?
Ja.
Weiter.
Alors, ce qu'on entend d'Das Geschirr, c'est la vaisselle que réclame le gardien de prison qui fait la tournée des cellules avant de libérer ce jeune musicien Robert Sand dans ce film assez extraordinaire. Là encore, une vraie magnifique découverte. Morgen beginnt das Leben. Je ne sais pas s'il est sorti en France, mais on pourrait dire La vie commence demain de Werner Orbaum. C'est un film de 1933 qui m'a fait penser aux Hommes le dimanche de Robert Siodmak, parce qu'on est dans une fiction d'un homme qui va sortir de prison, sa femme n'est pas là, il va à sa rencontre, sa femme elle-même est en retard, va à sa rencontre, ils vont se croiser dans Berlin, et c'est le prétexte à des plans très documentaires sur la ville de Berlin, qui est très proche, voilà, de ce film de Robert Siodmak, époque allemande, formidable, qui s'appelle Les Hommes le dimanche, et c'est, vous le dites dans le petit livret qui accompagne la rétrospective, le chant du cygne de la République de Weimar, dites-vous pourquoi ?
C'est un film
qui a été tourné en 1933, et donc après janvier 1933, bien sûr, mais en ce qui concerne l'atmosphère, parce que Berlin joue un rôle important et à cause des acteurs non connus, donc ça peut nous faire sembler au film de Siodmak, mais c'est très riche en langage cinématographique et la manière dont les images sont organisées. Et ça parle beaucoup à cette envie d'expérimenter avec les images. Donc on peut dire que le film national-socialiste, le film fasciste, est un film qui fait des réductions. Il y a des frontières qu'on n'a pas le droit de toucher, et même au point de vue esthétique. Et donc le film du national-socialisme est très conventionnel et... Et bien sûr, il n'est pas question de faire des expériments cinématographiques là-dedans. Et donc, seulement quand c'est défini par l'action, et Hochbaum, il vient d'une autre tradition. Il vient vraiment de la tradition du film de Weimar, qui a été très influencé par d'autres, par exemple le film soviétique de l'époque. Et c'est en plus un film qui joue avec cette non-rencontre entre l'homme et la femme, ce non-happy end qui est inclus dans ce film. Et on peut essayer, on peut comprendre pourquoi la femme veut être avec un autre homme, parce qu'elle veut aider son propre mari. Donc c'est une très belle expérience de voir ce film. Et on voulait dire ça, que le film de Weimar a des qualités, qu'il faut être attentif à ces qualités-là.
Voilà, alors Chant du Cygne aussi, parce que le film est tourné en janvier, quand Hitler arrive au pouvoir, janvier 1933. Il va sortir vraiment un des derniers films de la République de Weimar à sortir en salle. Si on regarde ce programme de rétrospective, le cinéma de Weimar revisité, il n'y a que 3 films produits par la UFA. Or, à l'époque, la UFA est la compagnie dominante en termes de production. On fête en ce moment, depuis le 18 décembre 2017, le centenaire de la UFA qui a été créée donc pendant la guerre, le 18 décembre 1917. Il y a cette exposition pas loin d'ici, à côté de la Cinémathèque allemande, dans le musée du cinéma sur les 100 ans de la UFA. Il y a une grande partie de l'exposition permanente aussi du musée du cinéma, évidemment, qui est consacrée à l'histoire de la UFA. Il faudrait peut-être rappeler dans quelles circonstances cette firme est créée. C'est un moment où, après la défaite de Verdun, le haut commandement militaire allemand se dit peut-être que le cinéma va nous sauver. C'est une idée incroyable quand on voit ça d'aujourd'hui.
Je pense qu'il y a cette réaction en ce qui concerne la propagande alliée. C'est comme ça que les Allemands l'ont entendu. Ils étaient obsédés un peu et ça a été un peu forcé parce qu'il y a eu des états neutres, que la propagande est vraiment vieux jeu, que le public, on peut pas l'atteindre comme ça, et que le cinéma d'Hollywood, ou même en France, a beaucoup évalué, et c'est pour ça que le cinéma est aussi supérieur. Et c'est intéressant que le militaire, mais aussi le ministère de la guerre, change son point de vue sur le cinéma. C'était un danger. On y voyait des dangers aussi à l'attente morale. Et maintenant, on voit que ça n'a pas aidé d'avoir cette vue sur le cinéma. Et maintenant, on veut être un très, très grand joueur. On veut vraiment créer des films populaires qui gagnent beaucoup d'argent. Donc, la UFA était une réaction en ce qui concerne la propagande inférieure. Mais ça devient vraiment une très, très grande boîte de cinéma pour le grand public.
Oui, c'est ça qui est passionnant, c'est que dès le départ, on y met les moyens. Il y a les capitaux de l'industrie lourde allemande, la Deutsche Bank finance tout ça. On invente la compagnie de production intégrée verticalement, c'est-à-dire que la UFA est dès le départ à la fois producteur, distributeur et exploitant de ses films. Et puis, on met la barre très haut, puisqu'on commence par les très grosses productions de Ernst Lubitsch. Lubitsch qui réalise, 7 films en 1918, Les yeux de la momie, Carmen, toujours avec Paula Negri. Et ce sont tout de suite le grand cinéma de la UFA, les grands costumes, les grands décors, les grands moyens. Il y a une ambition cinématographique énorme pour une société créée donc par des généraux, des bureaucrates et des banquiers. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette ambition cinématographique extraordinaire dès le départ dans la UFA ?
La UFA a eu un peu de chance parce qu'il y a eu quand même des films qui ont eu une tradition. C'est la fusion de 3 boîtes, de la Nordisk, de la Meister et de la Pagu. Et c'est là où Lubitsch travaillait déjà. Et donc, la UFA a un peu gagné des talents. Elle ne doit pas former ses propres talents ou les découvrir. Elle peut déjà prendre Joe May, Ernst Lubitsch. Et maintenant, ils ont de l'argent, ils ont les moyens pour faire des grandes productions. Et donc, ces metteurs en scène peuvent faire des productions très, très grandes, très lourdes. Et ça fonctionne. Et ce qui est intéressant, que ça fonctionne aussi au plan international. Très vite, les productions de l'UFA sont vues et donc les alliés, en principe, voulaient un peu boycotter les films allemands, mais ça s'est brisé parce que ce sont des films très populaires. Et la UFA s'est toujours définie comme une boîte qui veut réussir d'une manière internationale, sur le marché international, il voudrait réussir aussi.
Mais au résultat, ça marche tellement bien, Michel Simon, que pour éviter que ça marche, autant prendre les réalisateurs, et Ernst Lubitsch, Murnau et tant d'autres partent très vite, avant même tous les cinéastes allemands qui devront partir pour des raisons politiques. Hollywood récupère très vite les talents de la UFA.
Oui, la UFA en fait s'inspirait des grandes compagnies américaines. C'est l'exemple le plus frappant, parce qu'en France, ni Gaumont ni Pathé, qui étaient les plus vieilles sociétés au monde, n'ont réussi à avoir cet empire sur la production. Mais les Américains avaient une énorme admiration pour le cinéma allemand. En fait, aussi pour le cinéma soviétique chez les intellectuels, mais il y avait le handicap politique, évidemment. Donc ils ont fait venir très vite. Lubitsch est arrivé en Amérique en 24 et il s'est installé à la Warner puis à la Paramount comme un cinéaste qui s'intègre parfaitement au système hollywoodien. Et ensuite c'est Murnau. Il faut pas oublier que L'Aurore par exemple était Le Dernier des Hommes et Faust avant en Allemagne, puis L'Aurore à la Fox ont été des modèles qui ont inspiré John Ford et tous les cinéastes de l'époque. Donc c'est vraiment, le cinéma allemand était pour les Américains le plus en avance au point de vue de la technique cinématographique. Le Dernier des Hommes, il n'y avait pas d'intertitre. C'est un film entièrement raconté par l'image et ça avait frappé absolument tous les Américains.
Vous aurez peut-être reconnu la musique originale de Gottfried Huppertz pour le Metropolis de Fritz Lang. Alors, je vais citer là un auteur, Klaus Kreimeyer, qui a écrit une très volumineuse histoire de la UFA, hein, 600 pages très fouillées sur le sujet. S'il existait une esthétique de la UFA, écrit-il, elle trouva son incarnation la plus convaincante dans un film qui ne pouvait naître qu'en Allemagne, à l'apogée de la République de Weimar et à Neubabelsberg, les studios de Babelsberg, Metropolis. C'est à la fois évidemment le film emblème du cinéma allemand de cette époque, mais c'est aussi celui de sa démesure totale, c'est son hubris, quoi. Le film qui devait coûter 1,5 million de marques en coûte 5,3 millions finalement, 17 mois de tournage et une UFA en péril, en quasi-faillite à cause de ce film, Rainer Rotter.
Ja, Metropolis war sicher die größte Übertreibung.
Oui, Metropolis, c'était vraiment la démesure de la UFA. Et c'est quand même une compagnie qui connaissait pas ce forme de contrôler les budgets. Donc, les metteurs en scène qu'on avait, et les componistes, les auteurs et les architectes, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, plus ou moins. Donc, c'est difficile à comprendre aujourd'hui, mais Metropolis est devenu un film de la demesure, parce que le budget et aussi le tournage a été vraiment débordé. S'il fallait vraiment dépenser tellement de l'argent, la UFA s'est demandé ça d'après le grand bide de ce film qui a été très raccourci, et donc dans l'ère Hugenberg qui commence après, parce que la UFA était presque faillite. Donc là, on change tout à fait la manière de tourner et on fait en sorte que les budgets soient respectés.
Alors ce monsieur Hugenberg dont vous parlez, c'est le docteur Alfred Hugenberg, chef d'un parti d'extrême droite, le Deutsche Nationale Volkspartei, le parti national du peuple allemand, mania de la presse aussi, et qui lui va réorienter les productions de la UFA. Il va licencier Erich Pommer, le producteur de Metropolis et de Murnau. Bon, il reviendra ensuite assez vite, mais on va faire des films qui sont un peu plus dans la ligne droite nationaliste. On va montrer des grands mélodrames prussiens, des comédies de caserne. Mais heureusement, on voit encore des choses assez intéressantes.
Nanou, was machen Sie denn in mein Schlafzimmer?
Sie sind also die Künstlerin Lola Lola.
Sie vielleicht von der Polizei?
Zu Ihrem, mein Fräulein. Ich bin Dr. Emanuel Rath, Professor am hiesigen Gymnasium.
Deswegen können Sie ruhig in meiner Garderobe einen Hut abnehmen. Was wollen Sie denn eigentlich hier?
Ich bin hier in amtlicher Eigenschaft. Sie verführen meine Schüler.
Ausgerechnet. Denken Sie, ich habe hier einen Kindergarten? Na? Nun sagen Sie gar nicht mehr.
Mensch, Sie sind ja die reinste Verkehrsstörung.
Naissance d'un mythe, Marlène Dietrich dans le rôle de Lola Lola face à Emile Jannings dans son dans la loge de son cabaret où le professeur lui reproche de corrompre ses élèves. Alors c'est là qu'on voit quand même l'élasticité politique formidable de la Oufa. C'est Hugenberg arrive avec un programme très idéologique et moral, mais on va quand même produire ce film adapté d'un livre de Heinrich Mann qui est tout sauf un national. Il est plutôt très très à gauche. Il est le parrain de l'Union du cinéma populaire, à l'époque, une organisation de gauche. Ça reste quand même les affaires avant tout. Il faut continuer à faire des films qui peuvent concurrencer Hollywood. Rainer Roth.
Ja, natürlich ging das auch Hugenberg.
Oui, bien sûr, même si Hugenberg, il fallait faire des films populaires, et aussi à l'étranger. Et c'est pour cette raison-là que Pommer a été... Il a été réembauché, mais c'était le spécialiste pour un cinéma très populaire. Et donc, ça a vraiment marché. Donc, sous Hugenberg, la UFA a fait un film national, entre guillemets, mais a toujours essayé de produire les genres, les films de genre. Et quand il y a eu le film sonore, il y a eu beaucoup d'opérettes qui ont été extrêmement populaires. Et qui était aussi très ironique et amusant. Et c'était pas du tout des films nationaux.
Alors j'ai dit naissance d'un mythe, c'est le mythe Marlène Dietrich. J'étais très frappé en visitant le musée du cinéma, l'exposition permanente, du nombre de salles consacrées à Marlène Dietrich. Elle a quasiment un dixième du parcours d'exposition elle toute seule. Or Marlène Dietrich, c'est son dernier film allemand, L'Ange Bleu. Elle signe un contrat avec Hollywood avant même la sortie de L'Ange Bleu, parce que la UFA, un grand ratage de la UFA, a décidé de ne pas renouveler son contrat. Il ne croit pas du tout à Marlène Dietrich, et pourtant ça reste une icône populaire. On est à côté ici de la Marlène Dietrich Platz, là où a lieu la Berlinale.
Je pense que la UFA a sous-estimé ce que pourrait devenir de Marlène. Et ça se voit aussi à l'affiche. On voit Emil Jannings, qui était une star d'époque. Très petit, c'était Marlène Dietrich, parce que Emil Jannings, il avait... En 1928, il a eu l'Oscar du meilleur acteur. Donc pour la UFA, c'était un film de Jannings. Et pour Sternberg, c'était un film de Marlène. Et donc, alors c'est lui qui en a fait une grande star internationale. Et on l'a un peu entendu dans cet extrait. Marlène, dans L'Ange Bleu, elle est un peu une enfant de la rue de Berlin, avec le dialecte de Berlin. C'est pas encore cette figure iconique que Sternberg en a fait plus tard. Et donc, c'était aussi douloureux, d'ailleurs, pour Marlène Dietrich. Mais elle a toujours accepté ça. C'est lui qui m'a fait. Elle a toujours accepté ça.
Alors face à Marlène Dietrich qui donc partira à Hollywood et s'opposera, comme on le saura, au régime nazi quand il arrivera, il y avait Emily Hennings, vous l'avez dit, il y a Hans Albers, et qui eux vont rester en Allemagne, vont continuer à tourner pour la UFA contrôlée par les nazis à partir de 1933, et la UFA commence à prendre le pas sur l'ensemble du cinéma allemand. Il y a aussi dans ce film Kurt Geron, qui lui finira déporté à Theresienstadt et assassiné à Auschwitz. Comment est-ce qu'on faisait pour travailler pour le régime nazi à l'époque? Est-ce qu'on était... Tout le monde n'était pas collaborateur enthousiaste en disant c'est merveilleux le nazisme. Pour la plupart des gens, il fallait continuer à travailler. C'était quoi? C'était un exil intérieur? On attendait de meilleurs jours?
Il y en a ceux qui ont fait cet exil intérieur. Et ça marche assez bien pendant une certaine époque. Si on pense à Detlef Zirk, qui a fait les premiers mélodrames avec Sarah Leander, et à la fin des années 30, il est allé à Hollywood. Il est devenu
Douglas
Sirk. Et ou Reinhold Schünzel, qui a fait Victor et Victoria, ou Amphitryon, il a fait un des plus beaux films de cette époque après 33. En 37, il a dû émigrer. Mais de l'autre côté, on peut consterner que des metteurs en scène qui ont fait des films de pire propagande, comme Troyansky ou Veit Harlan, ils ont réussi dans d'autres genres et font des très très belles mélodrames. Donc c'est un constat un peu... Quelqu'un qui fait Jutzus et Opfergang, comme Veit Harlan. Donc c'est très ambigu. Et ils profitent de ce régime et il leur donne ce qu'ils veulent, mais il ne fait pas que des films de propagande. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'intérieur de ce cinéma, il y a eu des exceptions. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce cinéma du national-socialisme est un cinéma pour le grand public. C'est un film populaire. Et ça devient extrêmement populaire. Jamais avant, il y a eu tellement de spectateurs pour le cinéma allemand comme entre 41 et 43.
Oui, précisément, y compris en plein milieu de la guerre.
Man weiß von seinem Ritt auf der Kanonenkugel, von dem Gaul, der am Kirchturm hing, von dem halbierten Pferd am Brunnen und so weiter. Einige wissen sogar, dass der Mann wirklich gelebt hat, dass er in diesem Schloss zur Welt kam, dass er in Wolfenbüttel Page und in Braunschweig drüben Kornett war und dass er später als Offizier in russischen Diensten stand. Jeder weiß von ihm, aber niemand kennt ihn. Keiner kann auf die Frage antworten, was war Münchhausen eigentlich für ein Mensch?
Ach, und Sie wissen es?
Er war ein kopernikanischer Mensch.
Ein kopernikanischer Mensch?
Wir lernen in der Schule, dass die schöne Erde, auf der wir das Glück haben, leben zu dürfen, eine Kugel ist. Lernen es und wir wissen, aber wir fühlen es nicht. Wir lernen weiter, auch in der Schule, dass die Erde im All schwebt, dass sie sich um sich selbst und um die Sonne dreht. Wir lernen es und wir wissen es. Wir wissen es? Nein. Nur der Verstand weiß es, eure Herzen, die wissen davon nichts, gar nichts. Nur wer es im Blut spürt, wenn er durch den Wald reitet, wenn mit einem Feind kämpft oder eine Frau umarmt oder eine zarte Blume pflückt. Nur wer es tief im Blut fühlt, dass das hier alles nur bei einem kleinen Stern unter Abermillionen anderer Sterne geschieht. Auf einer winzigen, ihre ewige Bahn kreisenden Kugel. Auf der Karussellfahrt um eine der glühenden Sonnen im Wandel der schönen Jahreszeiten und der schrecklichen Jahrhunderte. Nur... Wer das immer fühlt, ist wahrhaftig.
Alors on parle de cinéma populaire, Rainer Rotter, là pour le coup, la UFA n'a pas perdu son goût pour les très très grandes productions, méga-productions. On est en 1943, la UFA fête ses 25 ans et on met les moyens pour ça et on produit ce film en couleur assez incroyable que sont les aventures du baron de Münchhausen dont on vient d'entendre un extrait. C'est un film qui a énormément de succès dans l'Europe occupée par les nazis entières. C'est-à-dire, c'est là tout d'un coup, la UFA a accompli son rêve de dominer une partie du monde. Elle a des salles et des distributeurs. Enfin, tout le cinéma est sous contrôle UFA à cette époque.
Goebbels a dit, jamais avant notre cinéma a été aussi important et aussi distribué, mais c'est pas la qualité des films selon Goebbels, mais parce que la Wehrmacht a été tellement eu du succès, la UFA en a profité. Avec Münchhausen, ils ont montré ce dont ils sont capables, avec beaucoup d'effets, avec des trucages vraiment très convaincants. Même aujourd'hui, c'est un film en couleur et beaucoup de stars de la UFA, pas seulement Hans Albers, son rôle principal, mais d'autres. Birgitte Horner, Ilse Werner, c'est vraiment montré qu'est-ce qu'on peut faire si on a toutes nos forces. Et donc Münchhausen a été écrit par Erich Kästner, qui n'avait pas le droit d'écrire. Il a fait ça sur un pseudonyme.
Et Goebbels est au courant.
Même ça. Et même son pseudonyme n'est pas dans le film.
Mais Goebbels aime et croit tellement au cinéma qu'au moment où la guerre vraiment tourne très très mal pour les nazis, il va appeler dans ses discours politiques à la guerre totale. Il faut qu'à l'arrière, comme à l'avant du front, on se batte. Et il va en faire un film. Là, pour le coup, c'est vraiment Goebbels producteur. Il va faire ce film Kolberg, donc qu'on voit de manière très intéressante dans l'exposition et dans les collections permanentes du musée, sur comment ce film est à la et si vous mettez, il y a un petit montage où vous mettez des extraits du film et le discours de Goebbels au Sportpalast en février 1943, et là c'est comme si la mise en scène, le grand théâtre politique nazi, on sait qu'il aimait son goût du décorum, du costume, etc., entrait en parfaite synchronisation avec le cinéma à grand spectacle.
Mais Kolberg, c'est vraiment une exception. C'est vraiment le film où Goebbels a vraiment pensé, il va présenter comme il voit que nous sommes des héros qui ont toujours combattu. Et c'est vraiment une exception parce que Goebbels, il commence en 1939, on a besoin des films d'époque, des films qui montrent la guerre, qui réagissent à la situation de la guerre. Donc il y a beaucoup plus de propagande qu'avant. Après la défaite de Stalingrad, où il a tenu ce discours au Sportpalast, ça change. Le cinéma doit vraiment avoir être une forme d'escapisme. Il ne faut pas montrer les problèmes du quotidien. Au contraire, on n'en parle pas du tout des problèmes. Et Kolberg, c'est vraiment l'exception, parce que c'est une vraiment pour montrer qu'on peut vraiment produire un grand film et que ce temps était tellement héroïque.
Rappelons que la première de ce film a eu lieu dans la forteresse de La Rochelle, en France. Dernier réduit allemand après le débarquement. On a parachuté le film sur la forteresse pour pouvoir le montrer. Enfin, c'est une histoire incroyable. Alors, l'histoire de la UFA ne s'arrête pas avec la chute du régime nazi. Hein. 70% des installations de la UFA sont à Berlin-Est. Donc, c'est récupéré par les soviétiques et ça donnera la DEFA, le grande entreprise de production de cinéma de la RDA. Et puis, il y aura une partie, alors ça, on pourrait le raconter, mais ça serait plutôt l'histoire de la télévision qu'il faudrait raconter, puisque même si le gouvernement Adenauer va faire en sorte que la UFA continue, elle va vite rentrer en faillite, être rachetée par Bertelsmann, et aujourd'hui c'est un des plus grands producteurs de séries télévisées américaines. Le fait qu'il y ait une marque UFA, finalement, est important de conserver cette marque, y compris dans les salles de cinéma qui portent encore ce nom-là.
Dans les années 90, ça faisait partie de Bertelsmann, en tout cas la UFA de télévision. Est-ce qu'il faut garder ce nom-là ou est-ce qu'il faut se séparer de ce nom-là? Et donc, il s'avère que même parmi les plus jeunes, UFA, c'est encore une connotation positive. Donc, on a dit, si c'est toujours une grande marque qui est vivante avec lequel on peut associer des choses positives, on va garder cette marque-là, mais et maintenant on sera une UFA qui fait de la télévision.
Merci beaucoup, Rainer Rother. Et merci, Jörg Tachmann, d'avoir interprété vos propos, même si vous parlez un excellent français, mais vous avez préféré parler en allemand. L'exposition de la Deutsche Kinemathek, la cinémathèque allemande, sur la UFA au musée du cinéma de Berlin, dure jusqu'au 22 avril. Pour les germanophones, on recommande le catalogue richement illustré, dit UFA Geschichte einer Marke, publié par Kerber Verlag. Et puis, il y a aussi le catalogue de la rétrospective sur les films de la République de Weimar, Weimarer Kino Neugesehen. Ça, c'est chez Bertz und Fischer, en espérant que des cinémathèques françaises auront la bonne idée de reprendre votre programme. Appel au programmateur, parce que c'est extraordinaire, vraiment. Et puis, pour en savoir un peu plus sur la UFA, je vous recommande chez Flammarion la somme de Klaus Kreimeyer, une histoire du cinéma allemand. La UFA à 14h49 sur France Culture, dans Plan Large. Il est temps tout de même de s'intéresser un peu au film d'aujourd'hui. Comme le docteur Mabuse, dont on entend la musique, Michel Simon, un milieu. Il a donc tout vu, ou presque, de cette 68e édition du Festival International de Berlin, débutée le 15 février, qui s'achèvera donc demain. Drôle d'édition, parce qu'on est un peu dans une ambiance fin de règne. Dieter Koslik, son directeur depuis 2001, passera la main l'année prochaine. Ça sera son ultime édition. Les esprits, évidemment, s'échauffent un peu pour sa succession. En novembre dernier, des cinéastes allemands, 79 réalisateurs, dont Schlöndorff, Petzold, Fatih Akin, Marina II et beaucoup d'autres ont réclamé un nouveau départ pour la Berlinale, en reprochant en creux à Dieter Koslik une qualité un peu insuffisante de ses sélections, son goût pour des grands sujets politiques et puis pour les stars américaines. Est-ce que la compétition de cette année donne de l'eau au moulin à ses détracteurs, Michel Simon ?
Non, je ne pense pas. D'ailleurs, les détracteurs se sont un peu critiqués eux-mêmes. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas attaquer Dieter Koslik. Non, moi je pense que, étant donné que le Festival de Cannes est vraiment le plus grand festival au monde et que tous les metteurs en scène veulent aller à Cannes, ça oblige le Festival de Berlin à faire des découvertes. Parce que, évidemment, il leur échappe...
Ce qui est tant mieux.
Voilà, ce qui est tant mieux. Alors, il y a un tropisme nordique et vers l'Est, c'est-à-dire incontestablement, il y a une sélection qui donne des places à la Suède, à la Norvège, à la Russie, à la Pologne, et puis aussi à quatre films allemands, comme à Venise, on a beaucoup de films italiens, à Cannes, beaucoup de films français, on sert d'abord...
Cette bannière.
Mais ça permet de découvrir que le cinéma allemand, c'est pas seulement Fatih Akin, par exemple, qui pour en France, bon, il y a eu le phénomène Marina 2, mais en général, le cinéma allemand est très peu présent, alors qu'il y a de très bons films allemands, en particulier cette année, il y avait un film de Thomas Stuber, qui s'appelle In den Gangen, et puis...
ça veut dire Dans les rayons du supermarché.
Dans les rayons du supermarché, qui est un film tout à fait passionnant. Et puis, il y a aussi le film de...
Voilà, retrouvez vos notes, Michel.
Non, mais du grand metteur en scène Transit, le film...
De Christian Petzold.
De Christian Petzold, qui est un film tout à fait passionnant, qui se passe en 1941 à Marseille, où des gens veulent essayer d'aller aux États-Unis. Le risque qu'il a pris, c'est de tourner avec des voitures d'aujourd'hui, avec des vêtements d'aujourd'hui, et on se fait à ce parti pris. Et puis, il y a aussi des films hors compétition. Par exemple, un film qui a eu déjà le prix de la FIPRESI, qui est un film exceptionnel. Pour moi, probablement le meilleur film du festival. Alors, pourquoi ce film n'est pas en compétition ? Effectivement...
C'est un peu la question qu'on se pose souvent, Michel. Ah, voilà. Les films les plus passionnants sont souvent soit au Forum, soit au Panorama.
Voilà. Mais un film de 4 heures, alors moi je pense qu'il n'est pas en compétition parce que le metteur en scène s'est suicidé juste à la fin de son film. Et donc, il n'aurait pas foulé le tapis rouge. Il n'aurait pas donné de conférence de presse. Or, aujourd'hui, la présence physique des metteurs en scène est plus importante que leur film. On est dans une époque people, pas seulement à Berlin, mais dans le monde entier. Donc, Un éléphant se tient tranquille, de Hubo, qui est un film, je dirais, pour le résumer, que c'est plutôt comme un grand roman de Dostoïevski, c'est-à-dire ça se passe en 24 heures, de l'aube au crépuscule, même pas 24 heures, 18 heures, et il y a une série de personnages, c'est d'un pessimisme noir, c'est une sorte de polar, et c'est un film qui a impressionné les gens qui sont restés jusqu'au bout. La salle se dépeuplait, mais comme d'habitude, la salle se dépeuple, et puis finalement, ça fait son chemin, et on ne parle plus que de ça, et il a eu donc le prix de la FIPRESI. Et puis, il y a eu aussi un autre film qui a été très remarqué, c'est un film du Guatemala, ou non, plutôt de l'Uruguay, Les héritières de Marcello Martinesi, qui a eu également...
Celui-là, il est en compétition.
Qui a eu le prix de la FIPRESI pour la compétition. Et voilà, moi je pense qu'il y a aussi un film sur l'île des chiens, évidemment, le film de Wes Anderson. Il y avait une sélection américaine intéressante, par exemple, moi je ne suis pas du tout un parti pris pour Gus Van Sant. C'est un cinéaste extrêmement inégal, mais j'ai bien aimé, ne vous inquiétez pas, il n'ira pas très loin à pied, qui est avec Joaquin Phoenix, qui est l'histoire d'un tétraplégique et alcoolique. Ça pourrait donner lieu à un mélo épouvantable pour l'Oscar, mais il l'aura peut-être d'ailleurs, l'Oscar du meilleur acteur. Et c'est quelqu'un qui est devenu un satiriste par le dessin, et je trouve que c'est un film tout à fait étonnant de la part de Gus Van Sant. Il y a aussi un film de Steven Soderbergh tourné avec un téléphone portable.
Unsane,
qui est un film très étonnant sur une femme qui se trouve enfermée dans un hôpital et qui ne peut pas en sortir, un film un peu d'horreur et d'une qualité d'image tout à fait étonnante en téléphone, tournée avec un téléphone. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à découvrir. Il y avait une farce anti-religieuse qui venait de Pologne, Twarz, mais vraiment d'une charge très brutale contre la Pologne d'aujourd'hui, qui était également très réjouissante. Enfin, il y avait vraiment pas mal de choses, à mon avis, très très intéressantes. Peut-être, il faut mentionner tout de même le film de Cédric Kahn.
Voilà, j'allais vous dire, mais vous ne parlez pas des films français, Michel Simon. Il y avait deux films, La prière de Cédric Kahn et Eva de Benoît Jacquot.
Alors, le film de Cédric Kahn, La prière, a été apprécié, à mon avis, moins qu'il n'aurait dû être, parce que c'est un film que j'ai trouvé absolument remarquable. Et c'est vrai que c'est un film très rigoureux, pas tape à l'œil, sur un jeune garçon drogué, alcoolique, qui rentre dans une communauté religieuse pour se réformer, mais qui finalement préfère l'amour charnel à l'amour sacré, comme on pense au tableau du Titien, les deux amours, il préfère l'amour charnel, donc c'est un choix, et c'est un film avec une révélation étonnante d'un jeune garçon qui pourrait avoir le prix, parce qu'il y a ici le prix du meilleur espoir, à mon avis, ça me paraît évident qu'il ait le prix. Voilà, on verra ce soir quelle va être la décision, mais en tout cas, je pense qu'on retiendra surtout cet éléphant immobile, resté immobile, que tous les personnages du film veulent aller voir dans une ville pas loin de là, et ils n'y arriveront peut-être jamais. En tout cas, c'est un film absolument inouï sur la lumière, sur les mouvements d'appareil, sur le choix des décors et sur cette destinée de quelques personnages, tous marqués au désespoir le plus profond.
En un mot, vous faites un pari pour l'Ours d'Or ce soir ?
Vraiment, je ne sais absolument pas. Monsieur Tom Tykwer, que je considérais comme un cinéaste complètement surestimé, va probablement aimer un film norvégien, qui relate le massacre par un homme d'extrême droite dans une petite île, on se rappelle, il y a 7-8 ans, vu du point de vue d'une rescapée qui essaye de se cacher pendant une heure et demie en un seul mouvement d'appareil. C'est virtuose, c'est un peu Lola Run Lola, mais bien meilleur que Lola Run Lola. Peut-être ça plaira à Tom Tykwer, mais le film ne mérite pas un ours d'or.
Ein rätselhafter Schimmer, ein je ne sais pas quoi, liegt in den Augen immer bei einer schönen Frau. Doch wenn sich meine Augen bei einem vis-à-vis ganz tief in seine Saugen, was sprechen dann sie? Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt, denn das ist meine Welt und sonst gar nicht. Das ist, was soll ich machen, meine Natur? Ich kann halt lieben nur und sonst gar nicht.
Merci beaucoup Michel Simon. Résultat des courses donc ce soir dans le Berliner Palace sur la place Marlène Dietrich à Berlin pour l'Ours d'Or et les autres prix. On verra bien si Tom Tuchver, le réalisateur de Cours Lola Cours, a aussi mauvais goût que vous le dites. Plan Large, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup aux équipes de l'ARD de nous avoir accueillis dans leur studio provisoire dans l'hôtel Marriott sur la Potsdamer Platz. La prise de son Bettina Mikula et à Paris Bruno Gagnère Fontani. L'émission était préparée par Pascaline Bonnet et réalisée par Somani Na. La semaine prochaine, il sera question de lumière dans Plan Large. Nous recevrons le très grand directeur de la photographie, Vittorio Storaro, qui a signé les images du Conformiste, de 1900, d'Apocalypse Now, de Coup de cœur, et puis des derniers Woody Allen. Ça sera l'occasion de la rétrospective que lui consacre la Cinémathèque française. D'ici là, vos programmes continuent sur France Culture. Dans un instant, une vie, une œuvre, présentée par Irène Omelianenko.